peut présenter Marc comme un pionnier de la fin du XXe siècle ou comme un homme qui largue tout en Suisse et qui part. Il part retrouver la terre où il a grandi, le Nouveau-Mexique. Il y achète dans les années 90 quelques hectares de terre aux confins des Four Corners, là où le Nouveau-Mexique touche l'Arizona, l'Utah et le Colorado. Bien au-delà de la barrière Comanche, disputée au XIXe siècle par les colons du Texas. Le Nouveau-Mexique, c'est bizarre. Ça touche le Texas par l'ouest, mais ça reste l'État le moins peuplé des États-Unis. Et le plus pauvre aussi.
Je suis dans la région de Gallup et Grants. Ce serait le nord-ouest du Nouveau-Mexique, qui est quand même assez loin de la frontière, mais on peut y arriver, on peut arriver à la frontière en quelques heures de voiture, disons. Disons, mon retour au Nouveau-Mexique, je me suis retrouvé dans une zone très paumée, une zone de forêt qui appartenait avant, qui était un terrain de chasse des Zunis, où il y a de la poterie partout. Je suis arrivé là-bas en sachant pas du tout qui étaient ces peuples indigènes, en sachant quasiment rien sur les origines hispaniques. Et c'est à force de vivre là-bas et de devoir aussi me cultiver pour donner des tours dans les parcs, je me suis rendu compte que cette partie du sud-ouest des États-Unis a une culture beaucoup plus multiculturelle que les autres parties des États-Unis où les Indiens ont été décimés, comme en Californie. Ils sont encore là. Ils vivent toujours sur les terrains sur lesquels ils ont vécu avant, donc pour les Pueblos. Et ils ont des racines très profondes. Ben évidemment, ils sont là depuis des milliers d'années avant nous. Comme j'ai travaillé dans des parcs nationaux, puis que je devais donner des tours à des gens, il fallait quand même que je comprenne un petit peu quand je donnais des tours que cette partie sud-ouest des États-Unis était donc d'abord indienne, donc indigène, avec une flopée de tribus différentes qui vivaient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et de savoir qu'il y a eu une occupation espagnole qui a duré plus longtemps dans cette région des États-Unis que les États-Unis existent, puis qu'il y a une toute petite courte période où le Mexique est devenu un gouvernement indépendant qui a aussi occupé ces territoires, et ensuite, beaucoup plus tard, je crois que c'est seulement à partir de début 1800, je suis mauvais pour les dates, c'est devenu les États-Unis, des territoires, donc ce n'était même pas des États, qui étaient principalement occupés par des Hispaniques, des Indiens et quelques Blancs qui commençaient à mettre leurs pattes dans...
Des pionniers.
Voilà, des pionniers ou des envahisseurs. Oui. Donc avant qu'il y ait une présence européenne, il y a eu des envahisseurs du Nord qui sont venus harceler. Et on connaît très mal l'histoire. Il y a toutes sortes de théories. Il y a eu les Navajos et les Apaches qui venaient du Nord, qui étaient plutôt... qui ont migré sur plusieurs générations, mais il y a aussi une influence, on ne sait pas s'il y a une influence toltèque ou aztèque qui est aussi venue, c'est un peu une zone tampon entre le Grand Nord, les Indiens, la caricature de l'Indien nomade, toutes ces autres tribus, donc un peu la caricature de ce qu'on considère des Indiens, et des Indiens qui étaient déjà sédentarisés, mais qui ont probablement suivi plus d'influence des Aztèques, des Mayas, des Toltecs, et qui auraient peut-être aussi, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant 1400, vu qu'il n'y avait pas de blanc, et il n'y a pas beaucoup de traces de ce qui s'est passé, il y a les histoires des Indiens, mais pas du tout forcément une grande sympathie entre les Pueblos et les Apaches, les Navajos et les Comanches, parce qu'ils s'attaquaient entre eux, donc ce n'était pas peace and love, le mysticisme indien à la Rousseau, disons, c'était quand même les gens se kidnappaient, se tuaient. C'est un peu ce que je sais.
Une zone tampon, on l'aura compris, où vivait une multitude de bandes indiennes, ayant la particularité d'être sédentaires et de n'avoir jamais été déplacées. Et de niche, Nine.
C'est quoi qui a épargné les Pueblos? Parce qu'il y a énormément de tribus autres. Les Pueblos qui se sont complètement fait décimer. Comme tu dis, des siècles après, ils sont toujours là.
Non, c'est tout des théories, mais moi je pense certainement que d'abord, ce n'était pas les Pueblos. Donc, il y a les Zunis, il y a les Hopi, voilà. Il y a les Taos, il y a 19 tribus différentes, ouais, qui parlent différentes langues et tout. Ouais. Ils étaient tous sédentaires C'était vraiment des toutes petites communautés de quelques milliers, des villages de quelques milliers de gens qui cultivaient. Ils n'avaient pas forcément ce nomadisme. Et aussi, ils étaient dans un territoire qui n'était pas désirable. C'était du désert et c'était la sécheresse. Et ce n'est pas pour rien que le Nouveau-Mexique, encore maintenant, avec une Amérique de 300 millions de personnes, a qu'un million 200 ou 300 000 personnes. C'est du désert, c'est extrêmement dur de vivre. Moi, je vis à 2300 mètres, il y a des longs hivers, il n'y a pas d'eau. Ce n'était pas une région désirable et ce n'était pas un peuple guerrier. Et ils ont plus ou moins un peu laissé les envahisseurs faire leur loi. Ils les ont d'ailleurs virés, ils ont viré les Espagnols pendant un moment. Il y a eu une révolte autour de 1680 des Pueblos. Mais c'est que leur territoire était pauvre, pas désirable. Alors quand on regarde la Californie, le nord des États-Unis, les grands espaces où on fait cultiver, où il y avait des ressources minières, là, les Européens, les conquistadors, et puis bon, en Amérique du Sud, il y avait des ressources, donc ils ont visé ça. Et ce territoire-là n'était pas très intéressant. Ils ont beaucoup mieux survécu que beaucoup de tribus, comme on parle des Lakota, des Sioux, les Apaches, par exemple, aussi les Comanches. Ils étaient guerriers, ils cultivaient pas et ils vivaient de raids. Donc ils se sont fait vraiment tabasser. Moi, je crois surtout que c'est une zone qui n'a pas trop intéressé les différentes conquêtes parce qu'elle n'était pas intéressante au niveau agricole. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fichu les Navajos là. On leur a donné un territoire du côté plutôt de l'Arizona qui était complètement désertique où, à l'époque, on savait pas qu'il y avait de l'uranium et du gaz et du charbon en leur disant, bon, ben, on les fout dans un coin merdique, on prend toutes les bonnes terres.
Ok, le terrain, il n'intéresse pas. N'empêche qu'à l'ouest du Texas, c'est la même chose. Ça n'empêche pas les pionniers de vouloir toujours avancer.
Mais je pense que c'est nouveau les ressources. Il y avait des ressources, il y avait des terrains agricoles, il y avait quelque chose qui intéressait les pionniers. Parce que le Nouveau-Mexique est toujours resté un endroit un peu désolé, un no man's land, où même les truands américains comme Billy the Kid pouvaient s'isoler, on ne venait pas les chercher. C'était, disons, comment est-ce qu'on dit, les desert rats, les rats du désert, c'était les pueblos. Tu arrives au Nouveau-Mexique, tu ne survis pas si t'as pas de l'eau, un tout petit peu d'eau et que tu cultives pas, tu survives pas. On voit jusqu'à à peu près le 18e siècle, les pueblos, donc toutes ces tribus Nouveau-Mexique, il n'y en a qu'une, je crois, qui est en Arizona, c'est les Hopis, essayaient d'avoir 3 ou 4 ans de réserve de maïs. Ça, c'est pas du tout une notion de Comanche ou de Sioux, ou de. Bon, je connais
De
pas.
peuple nomade, quoi.
Donc, ils avaient et puis des populations qui restaient très petites. Donc là, je pense que ce territoire-là n'intéressait pas les autres. Même les conquistadors, ils croyaient qu'il y avait de l'or, les sept cités de Cibola. Et ils ont vu qu'il n'y avait rien, quoi, que c'était le désert, que ce n'était pas intéressant. Je crois que les Pueblos, ils avaient un mode de. Ils avaient réussi à survivre d'une manière qui n'était pas désirable pour qui que ce soit d'autre, quoi. C'était des.
Une société clanique, donc, vivant sur une terre qui n'intéresse personne. On peut dire qu'ils ont eu presque de la chance. Ils sont quand même toujours là. C'est quoi leur rapport avec les Blancs?
Détestent, ils en ont marre, des anthropologues, des archéologues. Donc là, je parle surtout des Zunis, des Hopis. Ils ont envie qu'on leur foute la paix, même dans leur misère. Il y a aussi quelque chose de très survie dans le contact avec des Blancs. C'est-à-dire, les touristes ne les intéressent pas trop. Même les touristes d'Allemagne qui viennent avec des. Ou d'Européens avec des longues tresses qui jouent aux Indiens, ça, ils n'aiment pas du tout. Ils se moquent, mais alors très poliment. Bon, là, je parle plutôt des Zunis, quelques Navajos que je connais, et les Hopis, ce qu'ils appellent les wannabes, c'est ceux qui voudraient être Indiens,
Voilà.
qui jouent aux Indiens. Alors, moi, je peux te raconter une histoire très drôle à ce sujet. C'est un Navajo, alors pur Navajo, 100%, donc cette tribu qui est de la région du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, qui sont plus ou moins apparentés aux Apaches. Il y en a un qui travaillait dans un parc national, puis c'était un copain, il travaillait dans la maintenance. Et il me dit qu'il y a un gars blond avec des yeux bleus, grisonnant qui vient dans un des parcs, donc au Nouveau-Mexique, au Hubble Trading Center, qui est un endroit qui est devenu un parc, un monument national, et où il y a beaucoup de Navajos qui travaillent. Ce gars qui arrive de la côte est en montrant sa carte d'Indien, en disant qu'il était Cherokee. Il n'y a pas d'histoire de carte et d'un 16e Cherokee, un 32e. Il y avait aussi l'époque des hippies où ils n'étaient vraiment pas aimés, les hippies qui arrivaient déguisés en Indien et qui considéraient qu'ils faisaient partie de la tribu parce qu'ils avaient des idées de nouvel âge. En fait, c'est des gens très conservateurs qui préfèrent que tu sois tout simplement un blanc qui assume d'être blanc et qui t'arrête de dire que tu as un 16e d'Indien. Donc là, mais ça, c'est assez particulier au sud-ouest où il n'y a pas eu trop de mélange.
Et alors, c'est comment une réserve Pueblo au XXIe siècle?
C'est-à-dire, moi je vis à quelques kilomètres de la réserve des Zunis. Ils ont un territoire de, c'est quand même des milliers d'hectares. Ils ont un assez grand territoire. Donc c'est le gouvernement américain qui a décidé que ces gens, il ne fallait plus qu'ils se baladent, un peu comme les Touaregs, les nomades en Afrique du Nord. Ils ont peut-être moins souffert du fait qu'on a dit, maintenant, voilà, ça c'est votre réserve. Vous avez votre territoire, votre gouvernement, votre police, vos écoles, maintenant lourdement subventionnées. Et il y a, je crois, 19 réserves Pueblo, dont une en Arizona, c'est les Hopis, les plus éloignés, les moins influencés par les conquêtes générales, les Zunis qui sont presque aussi loin que les Hopis, et toutes ces autres tribus Pueblo, à cause de cette grande migration qui avait eu lieu autour de 1300, à cause d'une sécheresse et de conflits entre eux, se sont déplacés vers le Rio Grande, qui est donc au Nouveau-Mexique, qui fait tout le Nouveau-Mexique, et se sont mis dans des régions où il y avait de l'eau, des forêts, et ont recommencé une vie là. Et les réserves ont été faites dans leur région qu'ils ont occupée à l'origine, mais ils sont beaucoup plus petites que les territoires qu'ils avaient avant. Je n'ai pas un rapport d'anthropologue ou d'archéologue. Et en fait, ce qui fait que j'ai pu peut-être plus me lier d'amitié. Et je vis dans la région. Donc déjà là, il faut raisonner survie. On investit dans des amis si... C'est très tribal aussi. S'ils contribuent, ils ont quelque chose à offrir. À cause de ce passé plutôt sédentaire où ils n'ont pas perdu autant, ils n'ont pas perdu leur mode de vie d'une manière aussi complète que les Utes qui se sont suicidés quand ils ne pouvaient plus être nomades, ou les hommes se suicidaient. Par contre, un grand désespoir des aînés qui, eux encore, ils sont tous en train de mourir, il y en a très peu en vie, qui encore étaient dehors avec leurs bâtons à cultiver du maïs, ouais, à chasser, à faire les cérémonies, qui vivaient presque comme il y a 500 ans, ça, il n'y a quasiment plus. On cultive presque plus le maïs. Il n'y a plus de cette autosuffisance. Il y a presque une dépendance des food stamps, de l'aide sociale. Ils ont perdu cette autonomie, et c'est presque dommage parce qu'ils ont des territoires qui leur permettraient encore d'être autonomes, mais ça, les jeunes n'ont plus envie de ça. Donc il y a quand même un phénomène peut-être une possible disparition complète.
Une seconde disparition. Voilà ce qui attend les peuples indiens qui vivent aujourd'hui dans des réserves. C'est moins rapide, moins guerrier, mais tout aussi efficace. Quant à Marc, il pourrait encore nous parler beaucoup sur ce sujet. Une autre fois peut-être. En attendant, on lui souhaite un bon retour là-bas, au Nouveau-Mexique.
Les gens mangent mal. Il y a eu beaucoup plus de mélange.
Des déserteurs, je crois, aztèques qui ont intégré les tribus.